Historiquement, votre émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et aujourd'hui, David, vous allez sur le terrain de votre comparse Olivier Pouls, puisque vous remontez aux origines de la banane.
Oui. La banane, c'est vraiment le, je pense de très loin, le fruit le mieux designé du monde. C'est même incroyable à quel point c'est bien designé quand on le compare à d'autres fruits. La poire, par exemple, c'est délicieux, mais on s'en fout partout, c'est super fragile. L'abricot, si on le protège pas, il s'écrase. Les fraises, les framboises, j'en parle pas. Mais la banane, c'est parfait. Déjà, c'est de loin le fruit le plus épluchable du monde. Notamment parce que la banane a une ouverture facile qui, au passage, n'est pas celle qu'on croit. Il y a beaucoup de gens, peut-être la plupart, qui ouvrent la banane par la tête. Vous voyez ici? Et ce qui fait que ça l'écrase complètement, c'est pas bien. Eh ben non, ce qu'il faut faire, c'est de le faire de l'autre côté. Regardez-moi ça. Je fais ça et la banane s'ouvre tout
mais
de suite.
Non.
Je
mais
vous
ma
ai,
vie
ah,
va
me
changer.
Pas que j'ai appris, que je vous ai appris
ah,
un
vous
truc.
Me l'avez appris.
Si, moi,
vous me l'avez
fait
appris.
Toujours.
Eh ben, écoutez, voilà. Moi, j'ai
vous,
appris
Stéphane,
ça.
Vous épluchez la banane par le bas?
Non, par le par, comme tout
eh bien,
le
c'est
monde,
une erreur,
mais
c'est...
avec un couteau, je donne
exactement.
Un
couteau. Exactement, voilà, il faut un couteau, alors que avec
alors,
les doigts,
alors
ça
que
marche.
De l'autre côté, le problème, vous pincez,
oui,
ça s'ouvre tout
seul. Oui,
sauf qu'à
ce moment-là, il y a la queue de la banane avec un petit truc noir à ce bout-là.
Qu'est-ce que vous appelez la queue de la banane,
la queue
Stéphane.
De la banane avec le petit truc noir.
Là, vous le voyez
mais vous pensez qu'il est là tout le temps? Moi, je pense qu'il n'est là que sur celle-ci,
non,
qu'il aurait pu...
Il est
non,
là
je pense
sur
ça.
Toutes les bananes.
Moi, je pense qu'il est très
mangeable. Et je l'enlève toujours.
Ouais,
non,
ouais.
Je le mange pas, moi.
Ouais. En tout cas, vous pouvez, l'ouverture facile, elle est de ce côté-là.
Elle est bas, en tout cas.
Et vous voyez, d'ailleurs, la banane épluchée comme ça, c'est un peu le cliché de la banane, vous voyez. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là.
C'est vrai.
J'attends que vous preniez la photo
oui,
pour les réseaux sociaux.
Oui, je vais prendre une photo de vous parce que vous êtes vraiment magnifique avec cette banane.
C'est une spéciale Joséphine Baker, est-ce que je
exactement,
vois.
Exactement.
Bah oui.
Allez-y. Et en plus, même comme ça, même quand la banane n'est pas encore épluchée, elle a, si vous voulez, une sorte d'étui de protection permanent qui permet de la transporter de façon sécurisée partout où on va. Tout ça, bien sûr, sans même parler de toutes les qualités culinaire de la banane. Notamment, si je me trompe pas, Olivier, elle peut même remplacer un petit peu la farine, quelquefois.
Elle a propriété un peu liante. Alors, elle contient de l'amidon aussi, et notamment quand elle est pas mûre.
Oui.
Et l'amidon, on sait que c'est quelque chose qui a tendance à faire de la liaison et à solidifier. On peut faire des gâteaux avec de la banane dedans.
Donc voilà. Donc vraiment un fruit totalement merveilleux qui donne envie de savoir depuis quand il existe. Alors la banane, bien sûr, ça vient d'une plante sauvage, mais une plante sauvage qui donnait des fruits un peu nuls. Vous voyez, avec des gros pépins dedans, pas top. Et donc, comme c'est le cas pour la plupart des fruits que l'on mange, la banane, celle que j'ai dans la main, ne serait pas la banane si on ne l'avait pas domestiquée.
Ah
c'est-à-dire,
bon, vous voulez dire que c'est pas dans cet état que Dieu l'a créé?
Non,
je me refuse.
Mais comme à peu près tous les fruits qu'on mange, c'est qu'on a patiemment sélectionné les spécimens les plus sucrés, qui avaient la chair la plus ferme, les plus épluchables aussi. Et les premiers qui ont commencé à faire ça, ce sont probablement les habitants de ce qui est aujourd'hui la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a au moins 1500 ans. Les bananes, elles sont mentionnées dans l'Antiquité, dans les textes grecs, dans les textes arabes, mais à l'époque, elles ne s'appelaient pas banane. Le mot banane, lui, il vient du portugais banane, qui lui-même... C'est marrant, il suffit de prononcer les mots en portugais pour que ce soit marrant, parce que c'est un peu les mêmes avec une voix chelou.
Ouais.
Banane. Le mot banane, qui lui-même vient probablement d'un mot bantou, qui désigne, évidemment, la banane. Et si ça vient du portugais, c'est fort probablement parce que les portugais ont joué un grand rôle dans l'essor de la banane. C'est eux, notamment, qui l'ont implanté au Brésil. À la fin du 19e siècle, les bananes, c'est devenu particulièrement cool dans le monde occidental, et en particulier aux États-Unis, c'est devenu vraiment l'un des fruits les plus cool et les plus à la mode. Et donc tout le monde en voulait, et comme c'était cool et que tout le monde en voulait, il y avait plein d'argent à se faire. Ce qui a excité la convoitise des Américains, qui sont peut-être le peuple qui aime le plus l'argent au monde.
Il
y a une je pense que c'est assez vrai. Il y a une entreprise qui a été, c'est pas grave, mais c'est comme ça.
Il y a les Suisses aussi.
Il y a une entreprise qui a été créée, qui s'appelait la United Fruit Company, qui depuis a été rebaptisée Chiquita. Vous connaissez
sûr,
les bananes Chiquita.
Numéro un mondial de la banane.
Exactement. Et la United Fruit Company, elle a fait des choses qu'on peut, de façon assez honnête, qualifier de pas top. Vous voyez, parce que pour cultiver des bananes, il faut des terres sous des climats tropicaux. Il y en a pas beaucoup aux États-Unis. En revanche, il y en a plein en Amérique du Sud, dans des pays étrangers par rapport aux États-Unis. Donc, et les gens de la United Fruit Company, ils ont fait quoi? Eh bien, pendant des dizaines d'années, ils ont corrompu des leaders sud-américains pour qu'ils leur donnent des terres pour cultiver leurs bananes. Et ils ont même financé des coups d'État pour s'assurer qu'ils avaient des alliés.
Les Américains finançaient des coups d'État en Amérique du Sud. Mais qu'est-ce que vous racontez, Nadine? Ça paraît fou.
Et même des entreprises américaines. Et vous savez quoi? L'expression République bananière,
ça vient de là.
Eh bien, c'est de là que ça vient. Ça désigne au départ un pays politiquement instable et très dépendant d'une seule ressource, comme par exemple les bananes, et qui est un peu à la merci des multinationales qui veulent s'y implanter. En 1911, par exemple, l'ancien dirigeant du Honduras, qui s'appelait Manuel Bonilla, il a fait un coup d'État financé par les gens de la banane pour reprendre le pouvoir. Et une fois revenu au pouvoir, bien sûr, il a donné plein de concessions à Chiquita, qui avait financé son coup d'État. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, les compagnies américaines de bananes, elles ont détruit des milliers d'hectares de forêts tropicales dans plein de pays d'Amérique du Sud pour cultiver leurs bananes. Et ça a même continué un petit peu après la guerre. Au Guatemala, après la guerre, il y a un président qui a été élu et qui voulait faire un truc simple. Il voulait racheter les terres à Chiquita pour les redonner aux paysans guatémaltèques.
Oh, malheureux.
Et sauf que pour fixer le prix d'achat, le prix de rachat des terres, il voulait se baser sur les déclarations fiscales faites par Chiquita. Sauf que ces déclarations, elles avaient volontairement sous-estimé la valeur des terres pour payer moins d'impôts. Et donc Chiquita, il voulait pas revendre leurs terres à un prix de merde. Et ils ont utilisé leur pouvoir de lobby gigantesque pour faire en sorte que les États-Unis interviennent pour abattre le gouvernement du président en question, ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a eu un coup d'État lié au lobby de la banane au Guatemala. Bon, aujourd'hui, il y a plus de pays qui soient aussi dépendants de la banane qu'ils l'étaient au XXe siècle, donc ça pose moins de problèmes. Mais ça pose quand même quelques problèmes écologiques, notamment parce qu'il faut énormément de pesticides pour les faire pousser. Ouais. Donc, la prochaine fois que vous kiffez une banane, émerveillez-vous sur à quel point le fruit est bien designé, mais ayez en tête quand même que c'est un fruit qui a une histoire un petit peu tumultueuse et sale.
Mais il y a voilà. Des bananes bio, non? On peut être sûr qu'elles ne sont pas fabriquées par Chiquita.
Je ne sais pas s'il y a vraiment des bananes bio sans pesticides.
Non, c'est une question que je
pose. Et peut-être même qu'en fait, parce qu'il y a des pesticides de synthèse, certes, mais les pesticides pas de synthèse, ils ne sont pas top non plus. Hein.
Alors, en revanche, c'est très mauvais, effectivement, pour les pauvres ouvriers qui sont contraints de travailler en général pour pas très cher dans les productions de bananes. Mais en revanche, il n'y a pas de résidus à l'intérieur de la banane. Elle est extrêmement bien protégée par sa peau épaisse.
Oui,
en fait, quand vous mangez,
par
rapport à ce qu'ils en balancent, si vous en mangez, il n'y a aucun problème. Mais on a le même problème aujourd'hui avec l'avocat, qui est un fruit et
qui dépense beaucoup d'eau, surtout.
Très discutable.
Et qui dépense beaucoup d'eau.
Oui.
Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.